Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Luc chapitre 23, le verset 33. Luc 23, je répète, verset 33, nous lirons jusqu'au verset 49. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou sinon Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en détournèrent, retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Il est question, verset 48, il est dit ce spectacle. Quel triste spectacle. Trois hommes à l'agonie, trois hommes qui souffraient, qui étaient un peu comme des condamnés à mort, puisque à l'époque, c'était la crucifixion, les Romains tuaient les gens par la crucifixion, et c'est une mort très lente, c'est beaucoup de souffrance, même de solitude, d'humiliation, puisque tout le monde passait devant ce lieu, et tout le monde se moquait, et les crucifiés, ils mouraient par asphyxie. On les brisait les tibias, de sorte que tout le poids descendait pour être asphyxié, sauf Jésus, puisque la Bible dit, c'est une prophétie qui s'accomplit, qu'aucun de ses os n'a été brisé. Dans ces trois hommes, nous voyons deux qui reçoivent ce qu'ils méritaient, c'est même sorti dans la bouche de l'un des deux malfaiteurs, pour nous, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. D'ailleurs, de dire que, il y a deux hommes qui reçoivent la condamnation qu'ils méritaient, et l'autre, appelé Jésus, il est mort non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, il est mort par amour pour toute l'humanité. Il a supporté le châtiment qui produit la paix. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a fait par amour, il l'a fait par amour pour l'humanité, pour nous, il a pensé à nous. Même si on vient près de 2000 ans après, il a pensé à chacun d'entre nous lorsqu'il s'est livré. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, en regardant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La mort de la croix est un moment difficile, de souffrance extrême, en plein soleil, en agonie, de solitude, de moquerie. Et ce qui m'a frappé pour ce soir, cette pensée, c'est que Jésus, malgré cette souffrance, il a prononcé des paroles qui sont très importante. Malgré la souffrance, je dirais que Jésus est resté lucide. Et il est resté à prononcer des paroles essentielles, des paroles importantes. Et je crois que les dernières paroles d'une personne qui va mourir, elles sont recueillies avec beaucoup d'attention. Je pense à notre vieille sœur qui est partie pour la gloire, notre sœur Mémère, la semaine dernière, avant de partir, elle mesurait ses paroles. On ne dit pas n'importe quoi, on mesure ce qu'on dit. Elle avait là laissé un message pour ses enfants, ses petits-enfants, un message de foi. Et d'après ce que j'ai entendu de cette famille, il disait que, voilà, elle mesurait ses paroles. Il y avait un message qui était porté. Et je pense que Jésus, malgré sa souffrance, est resté lucide et il nous a laissé un message. Un message puissant. Lorsqu'il était en train de souffrir, il était à l'agonie, il était dans l'incompréhension, mis au rang des malfaiteurs. Jésus a été considéré comme puni de Dieu. Il est quand même resté lucide et il nous a laissé un message puissant. Et devant ce message puissant, on peut voir qu'il y a eu plusieurs réactions dans la foule. Il y avait l'incompréhension. S'il est le sauveur du monde, il n'a qu'à se sauver lui-même et il va nous sauver nous. Et il y a de ceux qui se moquaient. Il y a de ceux qui le méprisaient, il y a de ceux qui étaient complètement dans l'indifférence, d'autres dans l'étonnement, d'autres dans les lamentations, et malgré qu'ils étaient en première loge d'entendre le message puissant que Jésus leur donnait. Et aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, plus de presque 2009 ans, on va dire, 2008 ans plus tard, eh bien, je crois que les paroles que Jésus a prononcées à la croix sont toujours aussi puissantes, puisque la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Et je crois que nous aussi, nous devrions recevoir les paroles que Jésus a prononcées à la croix avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de respect même, avec beaucoup, je dirais, de réflexion. Car derrière ces paroles, il y a un message puissant. Et Jésus a prononcé exactement cette phrase lorsqu'il était à la croix. On appelle les sept paroles, les sept phrases de Jésus à la croix. Cette phrase. Et pour bien comprendre les phrases, le texte que nous avons lu ce soir ne suffit pas, puisque vous savez comme moi, il y a quatre évangiles, et il y a eu plusieurs témoins, non pas qu'ils se contredisent, mais c'est comme si un événement a été vu par plusieurs personnes, et chacun a raconté ce qu'il a vu. Et il y a par exemple Luc, il a raconté ce qu'il a vu, et peut-être qu'il a émis quelques paroles que Jésus avait prononcées, mais nous les retrouvons dans Matthieu, dans Luc, et même dans Jean. Et on va voir ces sept paroles d'une façon chronologique, afin que nous puissions être attentifs à ce que Jésus a voulu nous dire alors qu'il mourait, pas par accident, pas par overdose, pas par obligation, il mourait par amour pour chacun d'entre nous. La première parole que Jésus a prononcée, Luc le dit au verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je crois que Jésus, lorsqu'il prononce cette phrase, au-delà qu'il pardonnait ses bourreaux, j'en suis conscient, vous êtes conscient avec moi, la Bible dit qu'il a pardonné ses bourreaux, il a pardonné les Romains et les Juifs qui l'ont livré, mais je crois que c'était un message de portée prophétique, et c'était pour nous et pour toute l'humanité. Jésus nous montre que le pardon nous est accordé en Jésus. Alléluia. Donc il y a une seule source de pardon pour nous ce soir, c'est le Christ. Et le pardon que Jésus donne est un pardon parfait. C'est suffisant, parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'il n'y a plus rien à rajouter. Parfois, nous voudrions rajouter des œuvres, des prières, des neuvaines, des jeûnes, et toutes sortes d'œuvres pour apaiser la clémence de Dieu, pour satisfaire la justice de Dieu. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et nous découvrons dans l'Évangile que le pardon en Jésus, il est parfait. Et si quelqu'un a soif de pardon pour que sa conscience soit en paix, il y a une bonne nouvelle dans le message puissant que Jésus nous a laissé à la croix, c'est que le pardon de Jésus, il est parfait. Et la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul que si Jésus nous justifie, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le pardon de Dieu, il est parfait. Soyons-en rassuré, assuré, convaincu. Et je crois que si nous découvrons que le pardon en Jésus est parfait, oh, mais cela nous amène la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu, la paix avec l'éternité, et on va pas essayer de rajouter quelque chose au sacrifice de Jésus. Ça nous montre que le pardon de Jésus, accordé par le sacrifice à la croix, est suffisant. Et je réfléchis avec vous ce soir sur le pardon. C'est un pardon parfait, mais c'est aussi un pardon réparateur. Parfois, nous voudrions réparer nos fautes devant Dieu. On voudrait réparer les fautes. Et je crois que le pardon de Dieu, il va réparer nos fautes. C'est plus la peine de vouloir réparer. Jésus a réparé pour nous par sa mort expiatoire. Son sang nous a pardonné et son pardon, il est parfait, il est réparateur. Nous avions une dette contre Dieu. Le péché, dans la Bible, est montré comme une dette à l'égard de Dieu. Personne ne pouvait payer cette dette. Ni l'or, ni l'argent, ni la religion, ni les rites ne peuvent payer cette dette. Mais le pardon de Dieu, il est réparateur, il est suffisant. Je dirais même qu'il est libérateur, le pardon en Jésus. Libérateur. Et parfois, nous demandons pardon, mais on recommence sans arrêt la même faute. Voilà. Parce que le pardon des hommes, les pardons de nos semblables, il n'est pas libérateur. Il va peut-être apaiser notre conscience. Mais le pardon en Jésus, il est libérateur. Dans le sens où non seulement on va recevoir le pardon de nos péchés, mais maintenant on aura la force de triompher de tout ce qui domine sur nous. C'est formidable. Quelle puissance dans ce pardon. Ce pardon est parfait, ce pardon est réparateur, et ce pardon est libérateur. Et la source de ce pardon, oui, c'est l'amour de Dieu, mais c'est aussi la grâce de Dieu. Donc c'est une faveur immérité. On méritait rien si ce n'est la mort, mais par grâce, Jésus nous pardonne. Par amour, il nous pardonne. Et ce soir, je crois que nous devons considérer le message de Jésus à la croix, alors qu'il était à l'agonie, mais tout à fait lucide. Il nous a délivré un message puissant, donc essentiel, car on ne dit pas n'importe quoi au seuil de notre mort. On réfléchit à ce qu'on va dire. Et Jésus a commencé par la première de ces 7 phrases qu'il a prononcées à la croix. C'est « Père, pardonne-leur ». Je crois que nous devons comprendre qu'un plein pardon nous est accordé en Jésus. Alléluia ! Quelle grâce ! Peut-être que quelqu'un ce soir se sent fautif et il a besoin de réparer quelque chose. Il a besoin de retrouver une conscience propre, pure, droite, apaisée devant Dieu. Et toutes nos œuvres, nos mérites, nos pensées, nos prières ne serviraient absolument à rien. Mais je crois que nous devons puiser dans le pardon en Jésus. Il est suffisant ! Alléluia ! Voyons maintenant le verset 43 de notre lecture. Nous avons la deuxième parole que Jésus a prononcée à la croix. Alors le brigand, pour mettre un peu le contexte, le brigand, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le verset 43, Jésus répond. Jésus lui répondit, donc deuxième parole de Jésus à la croix. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia ! Le pardon nous est accordé, mais maintenant c'est l'assurance éternelle qui nous est accordée. L'assurance pour le salut. Qu'est-ce que le salut ? Être sauvé. Sauvé de qui ? Sauvé de quoi ? Sauvé de la colère à venir. Sauvé du jugement éternel. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sauvé de la mort éternelle. C'est quoi la mort éternelle ? C'est d'être privé de la présence de Dieu dans l'au-delà. Privé. Mais sauvé de qui ? Sauvé du diable. Sauvé de la tentation. Sauvé du pouvoir du péché. Sauvé des ténèbres. Et je crois que Jésus a été clair ici. Il a parlé aux brigands, oui, mais par répercussion, c'est pour nous. Et il dira, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Assurance pour le salut, mais on voit aussi assurance pour l'éternité d'être avec Jésus. Ça, c'est important. Je crois que si nous prenons en considération cette parole que Jésus a prononcée, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, donc il parle au futur, tu seras. Et je crois que seul Jésus, au travers de sa mort expiatoire, peut nous donner une assurance à l'égard de l'éternité. Jésus, c'est l'assurance pour le ciel. On vend des assurances vie. On vend des assurances maladie, mais seul Jésus est l'assurance pour l'éternité. Alléluia ! Alors les assurances vie, c'est cher, hein ? C'est cher. Dans le contexte avec le pouvoir d'achat, il faut très réfléchir avant de prendre une assurance vie, etc. Ils sont pas tous, solides, hein, avec toute la crise monétaire. Mais je crois que le salut que Jésus donne, l'assurance pour l'éternité, elle craint pas la crise. Elle craint pas la crise. Toutes les crises économiques, toutes les grandes banques s'écroulent, mais l'assurance que Jésus donne, elle restera la même, elle ne s'écroulera pas. Le monde va s'écrouler, mais l'assurance que Jésus donne pour l'éternité, elle demeure éternelle. Alléluia. Est-ce que tu as cette assurance lorsque tu vas quitter cette terre? Parce que tu vas droit à faire face. Et parfois, ça va plus vite qu'on le croit. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Et ça peut être ce soir, ça peut être cette nuit, ça peut être demain. Est-ce que tu as l'assurance? Où vas-tu passer l'éternité? Il y a la réponse ici. Pourquoi Jésus est mort? Pour te donner l'assurance d'être avec lui dans le ciel. Vous savez, dans les années 70, les années 80, non plutôt 80-90, il y avait un mouvement appelé le mouvement punk, No Future. Voilà, on ne croyait pas au futur. Et avant de connaître Jésus, avant de me marier, j'ai connu ces milieux-là, nos futurs. On vivait au jour le jour. Et on croyait pas au futur. On croyait pas, je dirais, au tout système politique, les systèmes de tout ce système qui allait se mettre. On croyait nos futurs. Et on vivait au jour le jour. Et je crois que Jésus, lui, non seulement il nous donne une assurance pour le salut, une assurance pour l'éternité, mais c'est aussi une assurance pour cette fin de pèlerinage pour nous. Et il va nous assurer un futur. Il parlera, c'est vrai, tu seras avec moi dans le paradis, mais avant d'arriver dans le paradis, Jésus nous assure un futur. Alléluia. Et lorsqu'on voit la conjoncture, on peut avoir peur du futur, oui. On peut avoir peur de la crise monétaire, on peut avoir peur de la crise du chômage, on peut avoir peur de toutes sortes de choses, la montée en puissance de la violence, de la haine, de la guerre, etc. Mais je crois qu'en Jésus, nous pouvons avoir une pleine assurance pour le futur. Il y a des gens qui ne veulent plus rien faire parce qu'ils ont peur du futur. Mais je crois que Jésus nous donne cette assurance pour le futur. Et nos futurs, c'était pas une bonne philosophie. Avec Jésus, il y a un oui pour le futur. Alléluia. Un bon futur, une bonne espérance. Et dans la bouche de Jérémie, il est dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Mais si ton avenir est mis entre les mains de Jésus, sans Jésus, notre avenir, il est fade. C'est un non-futur sans Jésus. Mais avec Jésus, on a un bon futur. Alléluia. Et le merveilleux, c'est marqué, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette assurance, nous pouvons, et je dirais même mieux, nous devons l'avoir aujourd'hui. C'est pas demain qu'on va avoir cette assurance. C'est pas dans une semaine ou au seuil de notre mort qu'on doit avoir cette assurance. C'est aujourd'hui. La Bible dit que celui qui est le Fils, il a la vie éternelle. Donc, c'est aujourd'hui que nous avons l'assurance. C'est aujourd'hui qu'on doit recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Ce n'est pas simplement la veille de notre départ pour l'éternité. C'est aujourd'hui. Et je crois que Jésus, à la croix du calvaire, il a dit l'essentiel. Un message puissant. Un message, je dirais, qui est direct. Il dira, mais voilà, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, une assurance pour le salut, une assurance pour l'éternité, une assurance pour le futur, et une assurance pour aujourd'hui. Troisième parole que Jésus a prononcée à la croix, je vais lire pour vous juste un petit verset dans Jean 19, le verset 26. Je rappelle que je suis en train de voir d'une façon chronologique les 7 paroles de Jésus à la croix. Il dira, en voyant Marie, « Femme, voilà ton fils. » Voilà. Je disais, le pardon nous est accordé, l'assurance nous est accordée. Je peux dire aussi que dans la bouche de Jésus, il est confirmé qu'une famille nous est accordée en Jésus. Amen. Une famille nous est accordée en Jésus. Il était en train de dire à Marie, voilà ta famille, ceux qui croient. Et je crois qu'au travers du sacrifice de Jésus, Dieu devient notre Père. Alléluia. Et lorsque nous avons Dieu comme notre Père, ben notre papa, il est riche. Notre Père, il peut tout. Voilà, vous le direz dans Matthieu. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait, il prendra soin de vous. Votre Père, il pardonne. Votre Père, il écoute. Votre Père, il rendra. C'est incalculable le nombre de fois. Si, on pourrait le calculer, c'est pas incalculable. On pourrait le calculer dans Matthieu le nombre de fois que c'est marqué notre Père. Matthieu 6, notre Père. Eh bien, c'est formidable. Il va vous le rendre, il va vous pardonner, il est attentif. Et je crois que lorsque nous nous identifions, eh bien, nous acceptons comme Jésus, comme sauveur, on va accepter les paroles que Jésus a prononcées comme des paroles venant de Dieu, nous nous identifions à lui et nous, ça fait que Dieu devient notre Père. On est introduit dans une famille. Et dans Jean 1, 12, il est dit à ceux qui l'ont reçu, quoi? La parole de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu devient notre Père, mais Jésus devient notre frère. Nous sommes cohéritiers avec Christ de toutes les promesses. Alléluia! C'est-à-dire que tout ce qui est à Dieu est à Jésus, et tout ce qui est à Jésus est à nous, si on s'identifie à cette famille spirituelle. On va être cohéritier avec Christ, ça veut dire qu'on va hériter de toutes les promesses, hériter de toutes les délivrances, du salut, de la gloire, des miracles, de la puissance, de l'amour, du pardon. Je ne pourrais pas énumérer toutes les promesses qu'il y a dans ce livre, c'est formidable. Mais nous avons une famille dont Dieu devient notre Père, Jésus devient notre frère, et l'Église devient une grande famille. Je crois que la base de l'Église, le socle de l'Église, c'est vrai que c'est la parole, il est dit dans Timothée, l'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité, mais c'est surtout l'œuvre de la croix qui nous rassemble. Si Jésus n'avait pas été crucifié, on ne serait pas là ce soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'amour de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus, et Jésus à la croix, il va rassembler, c'est le rassembleur, celui qui rassemble pas est contre moi, dira Jésus. Et Jésus c'est le bon rassembleur, il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, le psaume 68 verset 7. Il donne une famille. Et je crois que à la croix, Jésus nous donne une famille. À la croix, Jésus, eh bien, il nous introduit dans la famille de Dieu, dont Dieu est notre Père. Jésus est notre frère. L'Église, c'est nos frères et sœurs. Et c'est une famille où on n'est plus seul. On se comprend. On a le même esprit. On prie les uns pour les autres. On a le même combat. On a la même espérance. On se sent notre élément. Quand on est dans un milieu où est-ce qu'on est compris, c'est formidable. Et on vit dans un monde où personne ne nous comprend, et où on ne comprend pas la douleur qui, et l'épreuve qui peut vraiment surgir dans notre vie. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en s'identifiant aux paroles que Jésus a prononcées à la croix, nous sommes introduits dans un monde appelé le monde de la foi, où tout le monde nous comprend. Alléluia! Quelle grâce! Quel privilège! C'est pas une association qui peut nous donner ça. Ce n'est pas un groupement de personnes, un mouvement qui peut nous donner ça. Seule la parole et le Saint-Esprit, eh bien, fait qu'on puisse se comprendre. Alléluia! Quatrième parole. Parce qu'il faut que j'avance, il y a sept paroles. Rassurez-vous. Tant que je suis pas arrivé aux sept, j'ai pas fini. D'accord? Donc, quatrième parole. Je peux le voir dans Matthieu 27, verset 46. Cherchez pas, je vais le lire. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, contrairement à son habitude, ici, Jésus n'invoque pas Dieu comme son Père. Il dit mon Dieu, d'habitude il dit mon Père. Vous avez remarqué ça? Là, il dit pas mon Père, il dit mon Dieu. Et il est en pleine angoisse, en pleine agonie, en pleine détresse. C'est un moment difficile pour Jésus, parce qu'à ce moment précis-là, il a le poids de nos péchés sur lui. Il a le poids de notre condamnation. Jésus a connu l'abandon du Père pour nous accorder une paix parfaite. Je disais que dans les paroles de Jésus, il y a un message puissant qui nous dit que le pardon est accordé, l'assurance est accordée, une famille est accordée, et au moment où Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« mon Dieu, pardon, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous montre qu'une paix nous est accordée. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans la bouche du prophète Ésaïe que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. En fin de compte, par nos péchés, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu s'est détournée de nos vies pour tomber sur le Christ. Et au moment précis où Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui était un avec son Père, il ressent plus la présence de son Père. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement sale, tellement sous le jugement, tellement il avait le poids de nos péchés. L'amour du Père s'est détourné de lui. Réalisons qu'à ce moment précis-là, ce sont tous nos péchés qui prenaient sur lui, toute notre condamnation, tout notre jugement, toute notre misère. Et il a fallu qu'il soit abandonné du Père pour pouvoir nous donner la grâce de pouvoir connaître la présence de Dieu. C'est à ce moment précis que le voile s'est déchiré, que la route nouvelle a été ouverte, afin que nous puissions avoir part à la présence de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu sans passer par la croix. Et Jésus est en train de nous dire, là, maintenant, vous pouvez être en paix avec Dieu le Père. Vous pouvez avoir part à la présence de Dieu. Il y a un message puissant dans les sept paroles de Jésus, et cette quatrième parole nous montre qu'il nous donne une paix avec Dieu. Alléluia. Cinquième parole, Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout avait été déjà consommé, dit, donc c'est la cinquième parole, afin que l'écriture soit accomplie, donc vous voyez que tout est contrôlé parce que Dieu disait d'avance, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a une multitude de prophéties qui se sont accomplies les unes derrière les autres en même pas 24 heures. Il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Jésus en pleine souffrance avait soif. C'est vrai que c'était pas une soif physique là. En plus, si on lui a donné du vinaigre, c'était un peu une boisson pour le doper, à l'époque, c'est donner un peu de force. Voilà, donc le dopage, ça existe depuis le temps de Jésus, on donnait du vinaigre, voilà. Toujours est-il que Je ne pense pas que dans cette phrase, ces deux petits mots, j'ai soif, il y ait simplement une portée physique. Certainement qu'il avait soif en tant qu'homme. Mais cette parole, il ne l'a pas dit en tant qu'homme, Jésus, homme, fils de l'homme. Il a parlé en tant que fils de Dieu. Dieu, il a soif de quelque chose de plus profond. Il avait soif de nos âmes. Quand il dira j'ai soif, il a soif de nos âmes pour les laver. Il a soif de nos âmes pour les purifier. Il a soif de toute notre amertume. Il a soif de nos soucis. Il a soif de nos imperfections, de nos échecs. Il a soif de nos maladies pour nous libérer. En fin de compte, c'est quand il a dit j'ai soif, il voulait attirer sur lui tout ce qui est amer dans notre vie. Il a soif de toutes nos souffrances. Il a soif de nos incompréhensions, nos imperfections. Il a soif de nos échecs. Il a soif de notre amertume. Il a soif de notre souffrance. C'est comme si, prenez l'image d'une éponge. Quand c'est tout sec, une éponge, vous mettez dans une flaque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il aspire, n'est-ce pas? Jésus est comme une éponge qui avait soif. Il n'a pas aspiré de l'eau, il voulait aspirer notre péché, notre souffrance, notre haine, notre imperfection. Et je crois qu'il y a un moyen échappatoire de se débarrasser de tout ce qui nous semble lourd ici. C'est ce que Jésus voudrait nous dire. J'ai soif. Jésus a pris sur la croix du calvaire nos échecs, nos péchés, nos soucis, nos maladies, nos fardeaux, nos imperfections, nos lacunes, nos manquements. Donc nous pouvons en être libérés. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans le message de la croix, nous avons la pleine liberté. On peut avoir cette liberté, être débarrassé de tout ce qui nous semble lourd, débarrassé de nos amertumes, de nos souffrances, de nos échecs, de nos incompréhensions, de nos soucis. Que grâce. Je crois que nous devons recueillir ces paroles avec beaucoup de respect, avec beaucoup de crainte et de foi. Parce que c'est les paroles de Jésus alors qu'il était à l'agonie. Il y a un message puissant, un message qui va nous accorder la liberté. Alléluia! Donc le message accorde un plein pardon, une pleine assurance. Une famille nous est accordée. La paix nous est accordée. La liberté nous est accordée. Et dans Jean 19, la sixième parole que Jésus a prononcée au verset 30, quand Jésus eut pris leur vinaigre, donc il a bu le vinaigre. J'ouvre une parenthèse, des fois on lui donne que le vinaigre à Jésus. Hein. Mais non, on lui donne que ce qui est mauvais à Jésus. Ce soir, Jésus, il voudrait prendre peut-être autre chose que du vinaigre. Vous savez ce qui voudrait être doux à son palais? Voilà, notre cœur. Voilà. Peut-être pas lui donner que nos soucis ce soir. C'est vrai, on pourrait lui donner nos soucis, nos vinaigres. Notre amertume, nos échecs, on pourrait lui donner. Mais il y a quelque chose qui pourrait être plus doux, c'est notre cœur et notre âme. Alors, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, sixième parole, tout est accompli. Amen. La victoire nous est accordée en Jésus. Amen. Tout est accompli, le Seigneur l'a dit. Et dans ce message puissant, il y a un message qui nous dit que voilà, tout est accompli. La victoire sur la mort. La mort vous fait-elle peur? Ô mort, où est ta victoire? Dira l'apôtre Paul. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Oui, il est mort, il a été crucifié, mis au tombeau, mais trois jours après, il a dompté la mort. La mort ne pouvait pas le retenir, il est vivant. Alléluia. Et nous pouvons vaincre la peur de la mort. Nous pouvons vaincre la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, la victoire sur la mort. Victoire sur le pouvoir du péché, c'est à la croix que nous l'avons. L'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Et nous sommes tous esclaves vendus au péché. Mais Jésus a proclamé cette phrase formidable qui dégage une puissance formidable. Tout est accompli. Il y a la victoire sur le péché. Peut-être que quelqu'un est en proie à un péché spécifique. Vous l'appelez le péché mignon, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça vous détruit, ça vous rend malheureux. Et il y a une victoire dans ce que Jésus accomplit à la croix. Il y a une victoire pour toi dans ce tout est accompli. Il y a la victoire sur le pouvoir du péché. Et Jésus nous a franchis, il a brisé les liens. Il a brisé les chaînes du péché, le pouvoir du péché. L'homme naturel, sans la croix, ne peut pas triompher du pouvoir du péché. Le péché est plus fort que nous. Beaucoup de gens voudraient arrêter de boire, ils peuvent pas. Beaucoup de gens voudraient arrêter la drogue, ils peuvent pas. Beaucoup de gens voudraient arrêter d'être méchants, être adultères, ils peuvent pas. C'est plus fort, c'est une force qui est plus forte que nous. Mais dans le sacrifice de Jésus, dans le tout est accompli de Jésus, il y a une victoire qui est accordée sur la puissance du péché. Même plus loin on pourrait aller. Dans tout est accompli, il y a la victoire sur le diable. et toutes ses puissances. Et une victoire pour notre âme, une victoire pour notre esprit, une victoire pour notre corps. Et cette victoire, elle est complète. Il a dépouillé les dominations. Colossiens 2, 15. Tout à l'heure, on va le chanter. Voilà. Il a dépouillé les dominations. Il a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia! À la croix, Jésus a dépouillé le diable. Alléluia! Donc le diable, on n'a plus à avoir peur du diable. C'est lui qui doit trembler devant notre victoire. C'est ta victoire ce soir, c'est notre victoire. Nous devons la saisir par la foi. Jésus nous a donné une pleine victoire dans le tout est accompli de Jésus à la croix. Il y a la victoire pour toi, mon ami. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a prouvé cet amour alors qu'on était sans force. Il a été crucifié pour nous. Alléluia. Et enfin, septième parole. J'en ai fini. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père !» C'est-à-dire, il crie plus « Mon Dieu », il crie « Père !» Voilà, châtiment est parti. « Je me remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ça nous montre quelque chose de très important. Ça nous montre que Jésus est mort de lui-même. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Vous avez déjà vu, entendu quelqu'un faire ça, vous ?« Seigneur, là maintenant, c'est l'heure pour moi de mourir. Allez, m'y viens, moi là, m'y arrive. » Nous n'est pas capables de faire ça, nous. C'est pas nous qui décidons. Oui, non. Vous savez comment ça va se passer quand vous allez partir dans l'au-delà, vous ? Personne ne le sait. Mais Jésus, lui, il a une différence. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il s'est vraiment offert volontairement pour nous. Personne ne lui ôte la vie. Il l'offre lui-même. Alléluia. C'est important ça. Il n'est pas mort, je dirais, de fatigue, d'épuisement, de souffrance. Les deux autres à côté, oui, ils sont morts de souffrance. Une mort atroce. Une mort parce qu'ils n'en pouvaient plus, à l'agonie. Ils étaient asphyxiés, ils étaient roués de coups, etc. Mais Jésus, non, c'est pas ça qui l'a tué. Il a souffert, la croix, oui. Mais il a remis son esprit entre les mains de son Père. Ça nous montre également que Jésus est maître de la vie. Il est le prince de la vie. Alléluia. C'est pourquoi l'Évangile nous encourage à donner notre vie à Jésus. Il veut devenir le maître. C'est-à-dire qu'il veut contrôler. Il contrôle la vie. C'est lui qui a le pouvoir sur la vie. On ne lui ôte pas la vie à Jésus. Ce n'est pas les coups qui l'ont volé la vie. On voit bien ici, il s'est offert lui-même. J'ai le pouvoir d'ôter, de prendre la vie, dira Jésus. Et je crois que lui qui a le pouvoir sur la vie, il est en train de nous dire, ben, donne-moi ta vie, je veux en être le maître, je veux te diriger, je veux contrôler. Voilà le but de la prédication de la croix. Le but de l'œuvre de Jésus, c'est qu'il veut contrôler nos vies. Il veut avoir la direction de nos vies. Alléluia! Il faut avoir une pleine confiance de lui donner notre vie pour celui qui contrôle tout. Alors je conclue, les sept paroles de Jésus prononcées en pleine agonie, un triste spectacle entre deux brigands, du temps de Jésus, on a lu dans notre lecture, il y a eu plusieurs, je dirais, réactions. Très peu étaient bonnes. Vous avez remarqué qu'il y a plus de mauvaises réactions que de bonnes réactions. Beaucoup l'ont méprisé ces paroles. D'autres se sont moqués, d'autres étaient complètement indifférents, d'autres se sont tenus un peu au large. Ouais, je crois, mais bon, c'est pas pour moi. Voilà. Et nous retrouvons cet état d'esprit aujourd'hui, notre génération. Il y a encore des moqueries face à Jésus, et particulièrement au sacrifice de Jésus. Il y a l'indifférence, il y a la moquerie, il y a le mépris. Mais je crois que pour celui ou celle d'entre nous qui entendons ce message ce soir, celui ou celle qui veut être attentif à ce message puissant que Jésus nous laisse alors qu'il allait se livrer pour nous, il y a là dans ce message une puissance inégalable. Et nous devons recueillir ces paroles avec beaucoup d'attention, de respect et même de foi, car ces paroles ont la capacité de changer notre vie. Il nous donne la foi, cette parole, il nous rend agréable au Seigneur. Je vais peut-être récapituler vite avant de prier le Seigneur. Qu'est-ce qui nous est accordé au travers de ces sept paroles ? Un plein pardon est parfait nous est accordé. Un salut éternel nous est accordé, une famille nous est accordée, la paix nous est accordée, une pleine réconciliation nous est accordée, une pleine victoire complète nous est accordée, et une vie abondante et triomphante nous est accordée. Alléluia. Longtemps chanté, on l'appuie sur le cantique. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Si quelqu'un a soif de pardon, de justice, de salut, de famille, de paix, de réconciliation, de victoire, de vie abondante, viens à la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Alléluia, venez, venez en foule vers la croix, et c'est là que tout peut changer pour vous. Alléluia.